Campus Eh.
Welcome to Radio Campus.
Welcome to Radio Campus.
Radio Campus Orleans 88.3 FM.
Tu te sens seul le troisième mardi du mois, de 20h à 21h? Moi aussi. Alors rejoins-moi pour faire des LGBTs sur Radio Campus Angers. Culture queer, anecdotes, philo, art. La soirée s'annonce haute en couleurs sur LGBTs.
Bonsoir, bienvenue à tous sur LGBTs, il est 20h et on se retrouve pour une heure de commérage intensif et politique. Ce soir, on est avec Nouille et avec la compagnie d'Ali et Iseo. Coucou les copains.
Hello.
Coucou les copains.
Ça va bien?
Ça va top. Hein.
Et toi?
Bah oui, ça va. Ça va, ça va. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui nous touche du coup tous les trois. La transmasculinité, qui est donc le fait d'être un homme transgenre, assigné femme à la naissance et réellement les hommes les plus sexy qui puissent exister sur cette planète finalement. Donc j'avoue, c'est un peu le sujet qui m'a poussée à faire cette émission, donc je suis un peu surexcitée de vous recevoir ce soir, donc voilà, je suis ravie. Est-ce que vous voulez vous présenter? Qui êtes-vous finalement, Iseo et Ali?
Bah ouais, moi c'est Iseo, du coup je suis une personne transmasque également, je fais de la sociologie, je suis en master 2 de socio et je travaille sur les masculinités trans justement. Parce qu'on ne va pas se refaire, hein, voilà, c'était le sujet que je voulais traiter, qui est assez peu abordé dans la sociologie en France. Et puis voilà, donc très content d'être là aussi.
Slay.
Et moi je m'appelle Ali, et je suis étudiant en art, un peu comme vous aussi. Et voilà, j'étudie à Paris, et je travaille notamment sur ma transmasculinité, et sur ma situation biculturelle français-arabe, mais avec une arabité un peu transparente, voilà.
Let's go. Bon, ben on va commencer par le super horoscope toujours très fiable de Nouille, exactement, suivi d'une magnifique lecture performée du texte publié par Ali et Iseo l'année dernière au catalogue des arts décoratifs de Paris. Slay. Et on part ensuite à avoir une discussion autour de la transmasculinité et plus précisément sur les notions de racisme et de différents sociaux qui peuvent jouer sur le parcours de la transition d'une personne transgenre, pour finir avec les reviews de séries de nouilles.
Yay! Alors du coup, pour cette émission, j'avais envie de faire un peu les choses différemment. Vu que c'est le nouvel an chinois, là récemment, qui vient d'arriver, je me suis dit qu'on allait faire un petit horoscope sur le zodiaque chinois. Mmh. Donc je vais commencer par les dragons. Attention, burn-out. Burnout, t'as capté, dragon, crache le feu et tout. Aussi, c'est l'année du dragon, voilà, 2024. Good to know, bravo, je suis dragon, les dragons les meilleurs, bref. Les serpents, vous slayez en ce moment, plus rien ne vous arrête. Les chèvres, vous êtes mignons et c'est ça votre atout majeur dans la vie. Les singes, n'hésitez pas à vous recentrer sur vous-même. Les coqs.
C'est dans le thème.
Exactement. J'ai rien écrit pour les coqs, je trouve ça suffit en lui-même. Les chiens, creusez un trou dans la terre et mettez-y des effets personnels, puis oubliez-le. Les cochons, évitez Jean Lassalle. Les rats, c'est votre moment, n'hésitez pas à gratter un max. Et pour l'anecdote, pourquoi le chat n'est pas dans les zodiaques chinois? C'est parce que le rat lui a donné la mauvaise date. Et d'après la légende, c'est pour ça que les rats et les chats sont des ennemis naturels. Voilà. Les buffles, la vache, en ce moment, c'est pas facile. Les tigres, grrr, vous êtes à votre peak hotness. Lapin, peu cher. Voilà.
Bravo.
Merci, merci.
Donc on va performer une lecture d'un texte qu'on a écrit à quatre mains avec Ali, donc qui est un petit peu un mélange entre nos deux types de travail. Donc il y a un aspect un peu sociologique et un aspect un peu plus artistique. Et voilà, donc on a préparé une petite lecture de ce texte et bah voilà.
Bonne écoute.
Bonne écoute. Trans. comme on fuit ce qui nous constituait entièrement. Comme on évite un prénom,
des vêtements,
des postures du corps. Pour les plus aisés, les détenteurs des plus gros capitaux culturels et économiques,
les trans riches,
les trans blancs,
les trans français,
devenus des hommes aux yeux du monde.
Transfugue
d'un malaise insoluble.
Et pour les autres ?
Les trans.
Arabes.
Les trans.
Noirs.
Les trans.
Pas blancs.
Les trans.
Étrangers.
Les trans.
Entre deux cultures.
Les trans.
Pauvres.
Qui sortent du modèle hégémonique de la masculinité. Une autre violence. Trans. Comme on quitte la terre ferme parce qu'elle est devenue hostile. Comme un départ. Comme la traversée des mers. Trans. Comme la double absence d'un système de genre binaire, des différents territoires qui composent une identité. Espaces qui inscrivent dans leur loi l'impossibilité même d'exister.
D'être trans et d'exister.
Provoque parfois la fuite. En France métropolitaine, ce sont d'autres enjeux. La persistance d'un regard colonial sur les corps, d'un racisme encadrant les pratiques des institutions, qui fait que tous les hommes ne se valent pas. Si certains cherchent à tout prix à se distinguer d'une domination hégémonique, d'autres,
j'ai pas le luxe du choix,
sans cesse rappelés à leur position précaire. On n'enlève pas un stigmate comme on enlève une boucle d'oreille ou du vernis noir sur l'ongle du pouce. La figure du garçon arabe colle à la peau, avec son cortège de contrôles policiers et d'accusations de sexualité violente.
Transfilage,
pas si lointain, quotidien. La transition met en exergue la classification raciale des masculinités. La transition éclaire un fonctionnement raciste, sexué, institutionnel, qui intensifie les violences de genre comme les violences raciales. Exotisation et fétichisation sur les sites de rencontres. Suspicion en jogging dans la rue. Transméditerranée. La grosse boîte en bois alors, ils l'ont mise avec ou sans le drap vert à la fin?
Je demanderai à mes frères qui, pas comme moi, ont vu, eux, les cailloux par-dessus le vieux. Ton crâne chauve en voie d'acquisition deviendra complètement lisse avec les années. Dernière forme de vie, les vers te mangent. Et après, tu participeras d'être une pierre, puis des cailloux, du sable, une terre exploitable si elle n'avait pas déjà été exploitée par le pays adopté.
Un peu trop adapté.
Maintenant, les bourses d'orphelinat, si elles pouvaient parler, ne diraient pas ce qu'il reste de toi. Puisqu'on demande de réitérer une conclusion.
En définitive,
comme si tu pouvais revenir d'être un caillou pour devenir un vieux tétard en un an. Les vers bouffent bien comme tu bouffais bien.
Merci pour l'héritage.
La bite et le couteau à beurre sans la bite. Et du beurre à la place des membres.
50% donc.
Toi ou l'argent. Personne n'a choisi, mais on a eu un quart de tes 50%. Toi, peut-être ta grosse boîte en bois en linge, pardon. Toi, peut-être ta grosse boîte en bois et un linge de lin ou de coton. Gonflé et bleu comme la mer.
C'est les médicaments ?
Ceux d'avant que les poumons ne fassent plus les poumons. Et surtout, avant que la machine ne fasse plus le cœur. Avant même qu'on la débranche. Avant même qu'on te voie.
La proue est réservée au personnel.
Et avant, la poupe en avant profitée par ton grand occupant. Si j'étais vraiment ton remplaçant, si j'avais seulement même voulu faire les choses autrement, tu serais là, et moi, pas.
Mais c'est pas ta vie.
Moi, je suis là. Sauf devant tes lois, qui ne me reconnaîtront pas. Pas le droit. Selon toi, pas l'envie même. Après tout, pourquoi faire sale quand on peut faire accepter? Tous les excès sauf cela, ne les regarde pas. Souffle tes poumons s'il en reste, que c'est du grand n'importe quoi.
Une connerie grande comme toi et large aussi.
Je n'existe plus devant toi et ceux de là-bas. J'ai cru donc que je n'y reviendrais pas, du côté de ta mère à toi. Qui ne me connaît pas comme ça, qui ne comprendrait pas et personne ne lui demandera.
Personne ne lui demandera.
Et ton roi, dont il s'est entendu dire qu'il est un peu comme moi, mais qui existe devant sa loi au moins.
Les lois de chez moi.
Emmené par une plus grande boîte en bois de la Troisième République, attendant qu'on la double. Et la honte restée,
sous les gravats.
On la déterrera. Mais Lila, 7h52, pied à terre.
Transporteur. D'une nouvelle identité sociale qui reconfigure le rapport à la couleur de peau, aux origines, à la question raciale. Souvent, chez les concernés, la volonté de garder contact avec un territoire, des racines qui rendent pourtant impossible tout changement administratif. Le choix d'un prénom. La volonté de réapprendre une langue et des traditions culinaires sont parfois entachées de l'aigreur du silence. Aigreur d'un voyage impossible.
Transtocker. Tu l'as mis où, le tiroir à livret de famille?
Transparence. La voix a
mué.
Les épaules sont
larges.
De la moustache. Alors, une nouvelle fuite, provoquée par la culpabilité constante d'être passé du côté des oppresseurs. La mise en place de stratégies d'évitement. Porter des cheveux longs qui ramènent pourtant à ce que l'on tentait de fuir il n'y a pas si longtemps.
Avant le passing.
Et l'enjeu du passing est des plus centraux. Il ouvre les portes de la solidarité masculine, des rires graveleux, de la sécurité dans la rue,
dans la nuit,
dans l'espace public. Ouvre les portes d'une complicité désormais inscrite dans le corps, qui, en se refermant, cloisonne un espace où seule la mémoire porte la trace de l'oppression passée. Et paradoxalement, nous apparaissons au monde incarnés en un corps bien plus fidèle, qui libère tout autant qu'il confine dans un nouvel espace totalitaire. Il s'agit maintenant, pour certains, de se démarquer, d'adopter les codes d'une masculinité autre. Se distinguer de la masculinité hégémonique et de son joug autoritaire.
Les oppresseurs des oppresseurs, rejoints par défaut.
Et à défaut de mieux, on se dit
garçon,
boy,
mec,
gay,
queer,
pour éviter d'être homme. Transcutané.
Intramusclé, sous la répartition des graisses du genre assigné, caché-là sous les poils. En stratifié, le corps médical me passe dessus. Le pompier met carte sur table, tachycardie d'aérosol, remet ton masque le travelo.
Il y a eu un événement indésirable de type départ de feu au bloc opératoire.
Oui, donc j'ai pris feu avant qu'on incinère mes rejets. À la poubelle des corps, mais peut-être qu'elle finira sur les trottoirs parisiens. J'aurais préféré les feux de joie pour les tuer à la fin. Dernière trêve hivernale pour moi.
Retraite anticipée pour eux.
Le dos marqué sur la forme remontée à la surface.
Tu es mal assis?
J'ai le dos trop courbé, pas besoin de se pencher dessus pour le voir. Dernière trace du silence qui me plombait les épaules, rasée au laser. Il n'en reste civilement que les failles surjetées. Les chemins de fil sur les côtes.
Merci pour ce magnifique texte. Vraiment, vous avez dit les termes. Magnifique interprétation. Vous avez écrit ce texte aussi dans un parcours de transition. Évidemment, il y a des personnes trans qui existent qui ne transitionnent pas. Mais du coup, vous abordez la question beaucoup du passing. Est-ce que vous pourriez définir ce que c'est le passing finalement ?
Alors, le passing, initialement, c'est un terme qui fait référence dans l'Amérique, enfin dans les États-Unis ségrégationnistes, à des personnes qui, entre énormes guillemets, là vous les voyez pas mais je les fais, qui passaient pour blanches. Mais du coup, nous, dans le contexte dans lequel on l'utilise, le passing, c'est le fait pour une personne trans d'être perçue dans le genre dans lequel elle s'identifie. De, pareil, énormes guillemets, passer pour le genre auquel elle s'identifie.
Ok.
Je sais pas si j'ai été clair.
Tout à fait, bah si. Et du coup, vous avez publié vos textes. Donc, ça a été publié dans la revue Décor des arts décoratifs de Paris, où Ali, tu étudies. Ça a été publié le 18 décembre 2023. Donc, ça fait un peu plus d'un an. Et Ali aussi, il y a tes. Non, ça fait pas plus d'un an.
Ah non, ça fait 3 mois.
Ça fait quelques mois.
Bon.
C'est pas grave. Hein. On l'a écrit il y a à peu près un an. En fait.
Bon, ça marche quand même. Et du coup, Ali, votre texte, il est accompagné d'une œuvre à toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Ouais, c'est accompagné d'une œuvre qui s'appelle Le Trameur. Et en fait, c'est juste un cadre en aluminium qui est censé être une imprimante manuelle. Et donc, en fait, ça représente un peu ce que je fais de façon générale. C'est-à-dire que je me sers d'objets qui portent un peu des codes culturels dominants. Donc l'objet du cadre, il fait vraiment partie de ça, et dans lequel moi j'inclus des éléments administratifs qui font référence à ma vie et à la manière dont j'essaie d'utiliser le langage pour raconter ce que c'est que d'être trans de façon administrative en tout cas.
Bah, du coup, en parlant de langage, déjà vous avez dit les termes, merci à vous. et en plus, je trouve que c'est très intéressant de voir la manière dont vous êtes approprié le langage, parce que vous avez inventé les mots trans-stalker, transparence, enfin ça existe déjà, mais des mots qui n'existent pas pour justement adapter votre discours. Et je trouve que c'est très beau de voir comment dans la communauté queer, on se réapproprie tellement de choses, dont le langage, ne serait-ce que par l'exemple que tout le monde connaît de l'écriture inclusive, le fait d'inventer des termes pour parler de choses, c'est très important d'avoir des choses pour les nommer.
Je reviens là-dessus rapidement parce que du coup, oui, en effet, il y a les termes qu'on lisait, qu'on répétait souvent l'un après l'autre. C'est des termes qui ont été en vrai inventés par Ali. Enfin, ça fait partie aussi de son travail. Je sais que tu avais fait par exemple un recensement des compagnies de transport avec le mot trans dedans.
C'est un projet classique de trans.
On l'a tous fait.
Ouais, bah, je sais pas, pour moi, inventer des nouveaux mots, c'est aussi trouver des nouvelles manières de se définir, sachant que les termes qui ont été souvent posés sur nos identités étaient de base soit proches de l'insulte, soit proches de la médicalisation, et que même si on fait des transitions médicales, on a un peu envie de le voir autrement que comme une forme de soin. C'est pas toujours une forme de soin de nos corps, en tout cas.
Ouais, ou de soins ou de maladies mentales, parce que c'était ça aussi quand même jusqu'à assez récemment, c'était dans le registre des maladies psychologiques.
C'est très pathologisé dans le discours de démarche de transition médicale, on est atteint d'un transsexualisme, c'est tout un délire quand même.
Oui, ou le truc de « il faut absolument avoir de la dysphorie de genre pour transitionner, sinon t'es pas assez malade ».
Et donc, toi, Iséo, tu es en sociologie, tu es en M2, et on a beaucoup discuté, et vous parlez beaucoup de masculinité hégémonique dans le texte, et je me disais, comme tu m'avais expliqué il y a quelques jours, la différence entre la masculinité hégémonique, subordonnée et complice, que je trouve très intéressante aussi pour comprendre vraiment dans le fond ce dont parle en fait votre texte.
Ouais, alors, donc... Là, je m'appuie sur les travaux de Raewyn Connell, qui est une sociologue australienne et qui a établi une typologie des masculinités. Donc là, la masculinité hégémonique dont tu parles, elle s'inspire d'un concept. L'hégémonie, c'est un concept d'Antonio Gramsci, qui est un théoricien, ma foi, marxiste, italien, donc du XXe siècle. Et qui parle, lui, de culture hégémonique, etc. Bon, je ne vais pas développer ça, mais donc en tout cas, Raewyn Connell, elle s'inspire de ça. Et donc pour elle, la masculinité hégémonique, c'est une forme de masculinité qui permet la poursuite, en fait, du système patriarcal. Et donc une masculinité qui est dominante parmi même les rapports de genre entre masculinité. Et donc après ça, elle parle aussi de la masculinité complice, qui en vrai je pense concerne pas mal d'hommes cis, même qu'on peut côtoyer, etc., qui est une masculinité qui remet pas en cause le système patriarcal, mais qui tire donc indirectement des bénéfices de ce système, sans forcément y participer activement. Et après, elle parle aussi donc, de la masculinité subordonnée, et ça c'est assez intéressant, notamment pour parler des masculinités trans. Parce que du coup, elle prend l'exemple des personnes gays, parce que bon, ça a été écrit il y a un petit moment déjà ce texte. Mmh. Et donc pour expliquer qu'en fait, il y a aussi au sein des rapports de genre, au sein de la masculinité, il y a aussi des hommes qui sont dominés, qui s'inscrivent dans des rapports de domination par rapport à d'autres hommes, notamment, et c'est triste à dire, mais du fait de la reprise de codes féminins, par exemple. Mmh. C'est ce qu'on observe avec des personnes gays, qui sont rejetées du côté de la féminité, et évidemment, dans un contexte patriarcal, la féminité, c'est ce qui est le plus dévalorisé. Mmh. Et donc voilà, moi, je m'empare de ça un petit peu dans ma recherche pour parler des masculinités trans, et notamment pour parler des masculinités trans qui sont non blanches, donc les personnes transmasques non blanches, et donc essayer un petit peu de saisir leur positionnement par rapport à des personnes transmasques blanches. Et c'est assez intéressant en fait, parce qu'il y a pas mal de différences dans ce que Joao Gabriel, qui est un chercheur aussi, appelle le devenir homme non blanc. Et je sais pas si je continue là-dessus.
Honnêtement, tu peux. Je pense un peu introduire ton sujet de mémoire qui est aussi un peu la base de vos textes.
Mm-hmm. Donc voilà, moi je fais des entretiens. Donc en sociologie, les entretiens, c'est rencontrer des personnes concernées par le sujet et discuter avec elles, recueillir leurs témoignages et après, à partir de ces témoignages, essayer de développer des hypothèses. Donc là, ça, c'est vraiment autour du vécu de ces personnes-là. J'ai eu en première année du coup pas mal d'analyses qui étaient en lien avec la famille, parce que c'était des personnes qui étaient assez jeunes, entre 18 et 25 ans, et qui étaient donc à un âge où la question de l'émancipation familiale se pose et où les personnes sont souvent quand même encore en lien assez fort avec leur famille, même si parfois il y a des personnes en rupture familiale du fait de la transidentité, ça c'est important de le dire aussi quand même. Et donc ce que j'ai pu observer donc là sur ces deux années, c'est la classification, ce que j'ai appelé la classification raciale des masculinités dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, et donc le fait que finalement être perçu comme un homme non blanc, enfin le chemin de la transition en tant que personne non blanche, ça met aussi en exergue d'autres discriminations qui sont pas forcément vécues par les personnes transmasques blanches. Là-dessus, on tombe un petit peu sur des choses qui sont déjà connues, mais qui sont importantes à souligner quand même. La question de, par exemple, les contrôles aux faciès, les comportements racistes, que ça peut être institutionnel, ça peut être face aux médecins, ça peut être face à la police quand même assez régulièrement. Et donc l'idée c'était de mettre en exergue ces différences-là, et aussi dans un contexte parfois où les personnes sont binationales ou sont dans un contexte de double culture, et donc la question aussi de la réappropriation ou de l'appropriation de la culture, la seconde culture, dans un contexte où il y a quand même aussi peu de représentation, ça c'est important de le dire et c'est souligné aussi par tous mes enquêtés, peu de représentation de personnes transmasques non blanches. Et donc, ce qui peut être aussi un frein à la transition, qui est identifié comme un frein à la transition par pas mal de gens. Et là-dessus, Ali, en vrai, je peux te donner la parole, peut-être, si tu as des trucs à dire sur ce sujet-là.
Par rapport à...
À l'absence de représentation, comment ça peut être vécu, du coup, par les personnes.
Bah, je pense qu'on peut même en parler ensemble, parce que même sans parler toujours de personnes non blanches... De toute façon, quand il y a une double culture et qu'il n'y a pas tellement de représentation, ou alors que c'est une double culture qui est souvent liée soit à la religion, soit juste à une culture qui a moins connu des grandes médiatisations de la culture queer, en vrai, ce sujet, il touche plein d'autres gens aussi. Moi, je pense que... Je sais pas. T'en penses quoi, toi, Charlie?
Bah, c'est que le sujet transmasque, donc transmasculin très spécifiquement, il est apparu dans les années 2000. La toute première représentation, c'est en 2000. Donc, c'est hyper récent. Et il y a un gros boom de libération de la parole autour de la transmasculinité depuis, je dirais, le confinement à peu près. Le Covid, il y a eu beaucoup de discussions publiques qui ont commencé à apparaître sur ce sujet-là, qui en fait n'existait pas du tout aux yeux du public. Je me souviens, moi, quand j'étais gosse, je voyais des femmes trans, je comprenais, mais ça marchait pas, et ça m'était même pas venu en fait à l'esprit que je pouvais aller dans l'autre sens. Je m'étais pas dit oui, je vais être un mec, je connaissais que l'exemple des femmes trans, et du coup comme c'est un sujet qui est relativement nouveau dans la sphère médiatique et assez mainstream, bah, c'est vrai que les représentations sont souvent blanches, bourgeoises, skinny, enfin en fait toutes les cases de société, de modèle, de beauté, de tout ce qu'on veut, bah, c'est des gens quand même assez normés qui sont mis en valeur plutôt que des personnes qui sortent de ce cadre, notamment les personnes racisées ou grosses par exemple, qui sont quand même assez peu visibles dans le cas des personnes transmasques.
Sur cette question-là, tu t'évoquais du coup le fait que bah, toi, en étant petite, t'as eu plus connaissance des parcours de transition transfemme. Bah, là-dessus, il y a quand même un sociologue en France qui travaille là-dessus, c'est Emmanuel Bobassi, qui a écrit notamment une thèse qui s'appelle « Transfuge de sexe ». Et dans cette thèse, il explique qu'en fait, il y a eu une médiatisation et une, entre énormes guillemets, fascination pour les personnes transfemmes du fait du caractère descendants de leur transition, pareil dans un contexte patriarcal, le fait l'incompatibilité entre plutôt l'incapacité de concevoir le fait de quitter le groupe dominant des hommes, et du coup qui a l'idée à plus de médiatisation et même dans la médecine, enfin
ouais. Voilà. Bah, la transmisogynie qui est le contexte des femmes trans aussi qui les a mis sur un grand piédestal aussi de mettre en avant les femmes trans comme une blague en fait pendant des années et des années, qui les a mis aussi beaucoup en danger, et les transmasques de l'autre côté qui étaient invisibles. Donc c'est deux cas très différents où il y a du mal des deux côtés quoi, finalement. Et bon, merci pour cette première partie de discussion. On va pouvoir écouter une chanson qu'on a choisie, donc qui s'appelle Pour une amie de Viken. C'est tout de suite sur Radio Campus Angers.
J'ai juste une question pour vous. Je vois qu'il y a écrit Madame. Pas vous. Je pense que vous n'êtes pas la personne que vous dites être. Êtes-vous madame ou êtes-vous monsieur? C'est une question très simple, une question à laquelle vous pouvez me répondre en un instant. Vous ne devriez pas avoir de doute quant à cette question. Dites-moi simplement, qui êtes-vous? Vous êtes probablement monsieur.
Je le sais mieux que vous. C'est juste que vous n'avez pas l'air d'être madame. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez la réponse à cette question qui est somme toute assez simple? Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous? Qui êtes-vous, madame ou monsieur? Madame ou monsieur, qui êtes-vous? C'est pourtant une question assez simple qui ne devrait pas avoir de secret pour vous. Vous devriez le savoir, nous, qui vous êtes. On le sait assez vite, assez jeune, qui on est, si on est un homme ou une femme. Madame, monsieur, monsieur ou madame, qui êtes-vous? Vous devriez le savoir, pourtant, non. Qui êtes-vous? Vous êtes un autre, vous n'êtes pas la personne que vous dites être, que vous prétendez être même, je dirais. Qui êtes-vous, madame ou monsieur? C'est pour une amie, je demande, parce que ce n'est manifestement pas pour vous. Ce n'est manifestement pas vous, vous n'êtes pas la personne que vous prétendez être. Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous, madame ou monsieur? Qui êtes-vous, madame ou monsieur? Qui êtes-vous? C'est pourtant une question assez simple, vous devriez le savoir, pourtant non. C'est pourtant une question très simple, vous devriez le savoir qui vous êtes. Qui êtes-vous, madame ou monsieur? Êtes-vous un homme ou une femme? Qui êtes-vous? C'est pourtant une question assez simple, vous devriez le savoir.
Rebonsoir les LGBTiseurs, ça va?
Super!
Ouais! Alors, je voulais recommencer du coup par dire que j'ai oublié de préciser quelque chose de quand même important au début de l'émission. Vous avez récemment reçu vos papiers d'identité! Bravo à vous!
Un long chemin, une longue route sinueuse.
Ouais! Intense! Alors du coup, Ali... dans le texte, donc on voit un peu ton approche artistique de la littérature. Je ne sais pas ce que je raconte exactement. Et dans ton travail, du coup, tu travailles beaucoup sur les notions administratives autour de la transidentité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, en fait, justement pour l'anecdote, et je pense que ça illustre bien pourquoi je m'en suis servi et je m'en sers encore. C'est qu'on nous a demandé, c'est un peu classique dans les écoles d'art, on nous demande un sujet, un truc comme ça. Et nous, on nous avait demandé de nous projeter dans l'avenir. Et pour moi, ça me semblait tellement impossible du fait du manque de représentation. Et juste d'imaginer quelqu'un de trans, un peu arabe, et surtout une fois vieux, ça me semblait au-dessus de mes forces morales d'imagination, quoi. Et donc, la seule chose de vraiment concrète et tangible que j'ai trouvée, c'était des papiers, des vieux papiers d'identité, ou des papiers administratifs, des documents, quoi, vraiment la forme document, et de les refaire, de les défaire, de les modifier et de les rendre futuristes. Et du coup, peut-être des fois juste en modifiant des dates ou en refaisant des phrases et en m'inventant une vie future. En fait, c'est un élément que j'ai trouvé tellement parlant par le pouvoir qu'il implique en lui-même et tout ce que ça veut dire dans notre vie de tous les jours. Et après, il y a eu plein d'éléments comme ça qui me sont apparus tellement important dans notre quotidien et auquel on pensait plus. Et nous en tant que personnes trans, on n'a pas le choix d'y penser. Enfin, moi, j'ai, par exemple, dans l'œuvre dont on a parlé tout à l'heure, je réécris ce qu'il y avait dans mon portefeuille à un moment donné. Et en fait, c'est pareil, l'objet du portefeuille, il porte tellement de choses, la carte des transports, la carte vitale, la carte d'identité, toutes ces choses-là. Et en fait, moi, j'ai pas le luxe de ne pas y penser.
Ouais.
C'est un peu ça. Et du coup, c'est plein de choses que je redis à ma manière. Et des fois, juste le fait de les redire, ça leur remet une place importante, et surtout dans un contexte artistique, ça les questionne différemment. Et donc voilà pourquoi j'ai commencé à faire du travail avec ce langage là aussi, parce que c'est un langage particulier avec des formulations différentes et excluantes, en fait, tout simplement. Et moi, tous les codes excluants, même artistiquement, c'est des choses qui m'intéressent parce que elles s'adressent à un autre type de personne qui n'est pas toujours le milieu d'où je viens, mais parfois oui. Et ça m'interroge, sincèrement, voilà. Donc, ça m'interroge de réutiliser des termes bah, qui même nous, entre nous, on n'utilise pas parce que juste ça nous paraît trop dominant, quoi.
Bah, je trouve ça hyper intéressant que tu utilises le langage et la forme de l'administration qui est quand même quelque chose de très froid, donc quelque chose d'artistique, d'aussi beau et un peu alambiqué comme tu sais bien faire dans tes textes. Et je trouve ça hyper touchant comme forme de travail.
Ouais, ça, en vrai, je le fais aussi parce que ça me fait un peu marrer de dire des choses qui seraient jamais dites dans ce contexte-là. Quoi.
De faire des faux documents, chacal.
Ah ouais, ben j'adore, mais je suis un peu faussaire, mais du coup, plus ou moins légalement, vu que c'est pour l'art. Voilà.
Ça passe, si c'est pour l'art, ça passe. Exactement. Tranquille. Et du coup, dans ton texte, il y a un sujet dont on a pas mal discuté entre nous. C'est l'anecdote du roi du Maroc qui est un peu comme toi, qui passe par ses lois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Il y a une rumeur.
Oh là là,
une rumeur qui circule sur pas mal d'articles de presse, mais pas les plus relayés non plus. Il y en a eu un sur France Info, mais c'est le plus gros média qui en ait parlé. Sinon, c'est un peu des médias un peu sombres, genre... des choses parfois indépendantistes corses, parfois, je grossis les traits, mais parfois des nationalistes algériens, enfin il y a un peu de tout.
Okay.
Mais globalement, on ne sait pas trop si leurs sources elles sont très fiables, mais ils nous citent tous des images de vidéosurveillance d'endroits différents à chaque fois. Donc des fois, c'est la sortie d'une backroom à Bruxelles, des fois, c'est les bars gays ou les boîtes gays à Amsterdam, c'est comme quoi ils seraient sortis avec un harnais en cuir et ils seraient allés se cacher dans les rues. Enfin voilà. Et donc, il y a une rumeur qui dit que le roi du Maroc est homosexuel. Et je trouve que c'est assez intéressant, parce que, d'abord, que ce soit vrai ou pas, le traitement qu'en font les gens est assez marquant. C'est-à-dire que, par exemple, là-bas, on n'en parle pas. En tout cas, parmi les gens que je côtoyais, on n'en parle juste pas. C'est inenvisageable, ça n'existe pas. Pour les gens qui sont ailleurs, on critique, on dit qu'il est hypocrite, que oh là là, il a fait fermer le harem royal, donc ça veut dire qu'il est homosexuel. Et donc ça, par rapport à la masculinité aussi, c'est intéressant. Du genre, est-ce que quand on essaye de changer de changer de code, est-ce que du coup, on n'a plus la légitimité d'exprimer son pouvoir aussi ? Parce qu'il y a aussi eu des gens qui disaient que alors il devait démissionner, je sais pas comment on peut dire pour un roi, mais enfin
abdiquer, je
ouais,
pense.
Je crois que c'est ça. Alors il devait abdiquer parce qu'il était plus en cohérence avec ce qu'il oblige à son peuple aussi, parce que au Maroc c'est quand même un pays où il y a encore des lois, donc il y a toute une partie du code civil marocain écrit en français bien sûr qui s'appelle les attentats aux mœurs. Et donc c'est toute une série de choses qui sont interdites mais qui ne sont pas tout à fait citées, hein. C'est-à-dire que par exemple ils disent pas la sodomie, ils disent d'autres termes du genre des relations avec des personnes qui ne sont pas censées être avec. Et en fait ça concerne autant les relations homosexuelles que les trans, même si c'est jamais vraiment dit, que les personnes qui couchent avec des gens qui sont mariés ou enfin des choses comme ça. Enfin voilà, et donc et toutes ces lois-là, bien sûr, ont été plus ou moins importées par la France.
Bah oui, hein, toujours les mêmes, hein, les problèmes.
Eh oui.
Alors Iseo, tu travailles sur la communication de la Pride des banlieues, donc qui est une association à côté de Paris, et tu fabriques les posts Insta de vulgarisation sur les sujets politiques à ce sujet-là. Et tu m'as beaucoup parlé aussi de la loi immigration qui est passé très récemment, qui est quand même très grave. Tu m'avais expliqué comment, en fait, c'était venu à être mis en place et qu'est-ce que ça change, en fait, réellement dans la politique et dans la manière d'aborder ces choses-là.
Ouais, du coup, la Pride des banlieues, c'est même plus qu'une asso. En vrai, c'est un mouvement, carrément.
Okay.
Et donc, tous les ans, il y a une Pride qui est organisée. Bon, d'habitude, c'est à Saint-Denis. Cette année, ce ne sera pas à Saint-Denis parce qu'il y a les... Enfin, c'est pas possible à Saint-Denis. Et donc, en fait, il y a aussi une action tout au long de l'année. C'est important de le savoir. En vrai, il y a des distribs, il y a une action de plaidoyer, donc, notamment au travers de ces postes-là dont tu parles. Donc, ouais, on s'est lancé avec les personnes avec qui je taffe sur un espèce de format debunk. De tous les préjugés, idées reçues, idées fausses sur l'immigration qui sont notamment véhiculées par la droite et l'extrême droite et le gouvernement. et qui sont mises en place pour servir et justifier la loi immigration. Donc n'hésitez pas à aller follow la Pride des banlieues sur Instagram parce qu'on fait un gros taf en vrai. Et ouais, donc là-dessus, rapidos, donc déjà, il y a quand même le contexte de la montée de l'extrême droite en Europe. Je pense que ça, c'est un peu connu. Et également, du coup, en France, il y a aussi, ça c'est pareil, c'est pas un secret, mais en vrai, important de le rappeler aussi, du coup, une montée de la rhétorique et des idées de l'extrême droite et une diffusion aussi à travers les médias qui reprennent... à foison, en fait, ces idées-là et ce vocabulaire-là, et donc qui participent aussi à rendre plus acceptables des idées, des propositions qui sont complètement xénophobes et racistes. Et donc voilà, donc là, en fait, la loi immigration, c'est un peu l'émanation d'un gouvernement qui, de manière générale, mène des politiques violentes. Pareil, c'est un peu des facts que je lance comme ça, mais bon. Et en gros, la loi immigration, ça change des choses, ça durcit en fait les conditions d'accueil, les conditions de séjour, les conditions d'asile des personnes en situation de migration. Je vais prendre juste un petit exemple rapide sur les allocations familiales qui sont accordées aux personnes, donc des personnes qui sont en situation de migration, qui sont en situation régulière sur le territoire. Et bah maintenant, ça va être 5 ans de résidence obligatoire sur le territoire pour pouvoir accéder à ces aides-là, qui sont des aides en fait, familiales pour les enfants des personnes qui sont sur le territoire, qui sont nécessaires en fait, à la survie des gens. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux dire en vrai ?
Tu nous avais un peu parlé aussi des trucs de fichage en même temps des personnes racisées et en même temps des personnes trans. Et c'est hyper important, je pense, de rappeler ça.
Yes, alors ça, c'est pas un truc qui est dans la loi immigration, c'est justement un truc qui est passé un peu en soum-soum.
J'aime bien faire ça.
Voilà, exactement. En décembre, quand les personnes et les syndicats, etc., les associations étaient mobilisées contre la loi immigration. Et c'est un fichier qui a été mis en place, donc il est mis en place. En fait, ça, c'est une table de correspondance des prénoms. Donc ça veut dire, en gros, la police, les préfectures, les services du ministère de l'Intérieur ont accès à cette fiche qui recense toutes les personnes qui ont changé de prénom. On ne peut pas s'opposer à être dans ce fichier, c'est pour une durée de 6 ans. C'est-à-dire que pendant 6 ans, dans ce fichier-là, ils peuvent, s'ils vous arrêtent ou ils vous contrôlent, on ne sait pas encore exactement dans quelle modalité ça va être appliqué, mais dans l'idée, si vous vous faites arrêter et contrôler par la police peut avoir accès à ça et donc savoir si vous avez changé de prénom. Pourquoi c'est grave ? D'abord parce que 80% des personnes qui changent de prénom, c'est des personnes qui sont soit en situation de migration, soit qui sont issues de l'immigration. Donc il y a tout l'enjeu de la francisation des prénoms. Bon, il y avait eu toute la polémique avec Éric Zemmour et tout ça. De la francisation ou de la défrancisation, ça dépend. Mais en tout cas, c'est principalement ces personnes-là qui sont concernées. Et par extension, ça concerne aussi les personnes trans qui font leur changement de prénom à l'état civil. Et donc, ils se retrouveront aussi dans ce fichier. Donc, potentiellement, ça ouvre la porte à plus de transphobie, plus de racisme de la police.
Ça manquait, hein. Il y en avait pas assez.
Voilà, donc la lutte continue, quoi.
Et je pense qu'on peut conclure cette magnifique discussion aussi par un petit point que je voulais aborder sur la masculinité hégémonique. Il y a un magnifique livre de Bell Hooks qui s'appelle La volonté de changer et que je recommande à tous les hommes cisgenres de lire parce que c'est un très beau texte qui vous est adressé. C'est le dernier livre de Bell Hooks qui est une féministe noire américaine qui travaille immense rêve dans le féminisme, beaucoup aussi au travers de comment elle aborde ces questions-là par rapport à l'oppression raciale, aussi de la religion, enfin vraiment beaucoup de points très différents. Et en fait, dans ce livre, elle démonte le fonctionnement du patriarcat, comment il oppresse aussi les hommes de 7 à 77 ans. Et c'est très intéressant pour les hommes qui veulent travailler sur eux, parce que perso, moi, je vous aime bien, les hommes, donc s'il vous plaît, soyez sympas.
Alors, c'est l'heure de la petite review de série. Donc aujourd'hui, j'en ai qu'une seule. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose et que je me suis dit qu'il me fallait tout le temps nécessaire pour en parler. Donc, ça s'appelle Scavenger's Reign. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent.
Oui, tu m'en as beaucoup parlé.
C'est possible, oui. Donc c'est une série qui a été produite par HBO Max, qui est sortie l'année dernière. C'est 12 épisodes de 20 à 30 minutes à peu près. et c'est une série d'animation de science-fiction. Donc le scénario, il est assez classique, c'est voilà, un équipage d'un vaisseau spatial qui se crache sur une planète inconnue, qui se retrouve égaré et coincé là, et qui doit un peu se débrouiller donc sur cette planète inconnue. La particularité de cette série, c'est que la manière dont elle traite le scénario, les personnages, l'animation et la manière dont elle pose les bases de son univers, j'avais jamais vu ça avant. C'est vraiment une ode à la nature, à la biologie. Enfin, c'est n'importe quoi, comment c'est beau, comment c'est riche. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour qui est passé dans cette série et ça se voit et ça se sent. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais l'animation est magnifique. les décors, c'est vraiment très, très inspiré de BD de science-fiction des années 80-90. Donc vraiment, pareil, si vous avez vu... des films comme Alien ou ce genre de choses, c'est vraiment des trucs très organiques avec plein de trous, des choses qui évoluent, qui bavent, mais tout un peu en mimi, je sais pas comment expliquer. C'est très coloré et c'est très, très badant en même temps. On a un peu envie de s'y perdre, c'est un peu comme une balade en forêt, mais si la forêt est aval, quoi. C'est comme, c'est comme cueillir des champignons. Mais les champignons, ils veulent te bouffer. C'est comme observer un papillon, mais il se retourne et il a des grosses dents. Donc c'est à la fois joli et à la fois terrifiant. Super représentation aussi de personnes queer et racisées dans cette série. Donc vraiment, on adore, évidemment. Et ouais, voilà, hein, franchement, c'est la série qui m'a le plus marquée depuis un petit moment. Si vous aimez bien la science-fiction, si vous aimez les balades en forêt, les animaux bizarres, n'hésitez pas.
Parlant d'animaux bizarres...
Ah oui.
Tout à l'heure, on a parlé du... Le poisson ange.
Ah, c'est ça.
En fait, j'ai découvert hier qu'il y avait des poissons anges. Et c'est des poissons où, en fait, à la naissance, toutes les poissons sont des femelles. Et des fois, genre la nuit, tu peux dormir et tu te réveilles le lendemain et un des poissons femelles, c'est un homme. Enfin, c'est un mâle. Et en fait, ouais, c'est des poissons qui ont la capacité de changer, de transitionner finalement.
En dormant.
La nuit, genre. Ultime, sur vraiment. Une nuit.
Magnifique.
Voilà, mon animal préféré désormais.
C'est trop bien ça.
Bon, bah, on arrive au terme de cette super émission. Merci encore d'avoir répondu présent, Ali et Iseo.
Bah, merci à toi de nous avoir invités.
Oui, tu voulais passer une annonce.
Ah oui, complètement. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué un petit peu rapide ma recherche. Et en fait, j'ai besoin de personnes concernées qui seraient d'accord, motivées pour témoigner. Alors, c'est pas rémunéré, mais par contre, je peux vous payer des bières, des cafés, un goûter, tout ce que vous voulez. Voilà, donc si ça vous intéresse, moi je suis à Paris, mais on peut faire ça en visio. Et du coup, je vais vous donner mon mail, peut-être plutôt que mon,
allez,
que mon Insta. Donc mon mail, c'est izeo.laurent@gmail.com. N'hésitez pas, surtout, parce que ça m'aiderait vraiment beaucoup. C'est pour la science.
Voilà. Puis, ouais, portez-vous bien, les loulous. Bonne soirée.
Bisous.
Merci.
Bonsoir.
Ciao. Thank you.
parce que y